Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les parents de djihadistes. Leurs enfants sans histoire en France ou en Belgique se sont un jour radicalisés et sont partis rejoindre Daesh en Syrie. Aujourd'hui, près de 4 ans après les premiers départs, ils se mobilisent pour que leur drame prévienne certaines tentations, mais aussi pour dire que les recruteurs leur ont volé leurs enfants et que leur vie est brisée à jamais. Alors comment survivent ces victimes collatérales au quotidien ? Comment maintiennent-elles le contact avec leurs enfants si celui-ci est encore en vie ? Nous allons en discuter avec la journaliste Céline Schön. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez enquêté auprès de 5 parents en Belgique et en France. C'est à la fois peu et suffisant pour comprendre leur désarroi. Vous publiez « Parents de djihadistes ». Je reçois également 2 mamans dans l'émission, l'une anonyme que nous appellerons Élodie. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Votre fils est parti il y a un tout petit peu plus de 2 ans maintenant pour la Syrie via la Turquie avec sa petite amie. Il est là-bas depuis 2 ans, il est aujourd'hui papa de 2 petites filles. Également avec nous Véronique Loot. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous êtes en liaison avec nous à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Votre fils, Samy, est parti en octobre 2012 et il est décédé en décembre 2016. C'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Il est décédé suite à une frappe de l'armée américaine le 4 décembre 2016.
À Raqqa.
À Raqqa, exactement, oui.
Également avec nous dans le studio, David Thompson, journaliste à RFI. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié une enquête très remarquée, les revenants, ces Français partis faire le djihad et de retour en France, un retour auquel bien sûr rêve tout parent de djihadistes, même si cela se solde par une incarcération. Il y aura encore près de 700 Français toujours en Syrie.
Absolument.
Que vont-ils devenir ? Quel est l'avenir de leurs enfants aussi qui sont nés sans identité dans les territoires contrôlés par Daesh ? Évidemment, on va en discuter aussi avec vous, David. Et puis surtout, vous nous direz si les départs pour la Syrie continuent ou pas, étant donné les défaites militaires de l'État islamique. Et quant à vous, bien sûr, les voisins, vous pouvez nous questionner via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, également notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler à tout moment, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Élodie, vous avez choisi de vous exprimer, alors certes sous pseudonyme, de répondre aux questions des journalistes. D'autres parents ont choisi de se murer dans le silence. Pourquoi vous avez choisi de parler ?
Pour survivre. Parce que c'est un moyen de... Je ne sais pas, en fait, c'est un... un instinct de survie, de parler, pour ne pas que ça se reproduise, pour ne pas que d'autres parents, d'autres familles vivent le calvaire qui est le nôtre.
Et pourquoi, à l'inverse d'autres parents qui parlent à la presse comme vous, vous avez choisi de ne pas révéler votre identité et celle de votre fils ?
Parce que
en Syrie, donc depuis un peu plus de 2 ans.
Jusqu'à nouvel ordre, il est vivant. Et pour lui comme pour moi.
Pour maintenir le contact.
Pour maintenir le contact aussi, essentiellement, parce qu'il ne sait absolument pas ni que j'ai rejoint des associations de parents, ni même que je témoigne. Et j'ai toujours eu la hantise qu'il coupe les ponts, ou qu'on lui impose de couper les ponts si jamais il le savait.
Au risque, vous avez choisi de parler, au risque souvent, enfin c'est ce que disent beaucoup de parents, de subir aussi parfois des insultes sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas au début, moins maintenant ?
Moi, pas personnellement, dans le sens où, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai blindé.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de tout ce qui peut être Facebook, par exemple. Je l'ai vraiment...
Vous cherchez à vous protéger ?
Je l'ai blindé vraiment à mes seuls stricts amis. Donc il n'est absolument pas ouvert publiquement, je n'interviens jamais sur des publications publiques. Donc besoin de se préserver aussi, et garder un semblant de, enfin pourquoi on appelle ça de la tranquillité, mais un semblant de, ouais, de tranquillité.
De dignité.
Puis besoin d'avoir une vie autre, enfin.
De dignité aussi ?
La dignité aussi, parce qu'elle était, on était malmenés. On est malmenés. Moi, maintenant.
Par qui ?
Par l'opinion publique, par les gens qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres, qui pensent que nous sommes des parents défaillants, que nos enfants n'ont ni éducation, ni amour, ni règles, ce qui est absolument faux.
C'est aussi pour ça que vous avez choisi de raconter l'histoire de ses parents, Céline Schön.
Je crois que oui, j'avais l'impression qu'eux étaient vraiment parmi les mieux placés pour essayer de comprendre ce phénomène de la radicalisation violente, mais que voilà, au-delà de ça, il y avait un besoin de parler pour eux, de un peu pouvoir se reconstruire. Et si j'ai pu les aider à ça à un seul moment, l'objectif est rempli.
Les parents belges ou français que vous avez choisis, dont les enfants sont partis pour la Syrie, sont-ils représentatifs des 4000 ressortissants au total, grosso modo, hein, sur toute l'Union européenne, sociologiquement parlant ?
Sociologiquement parlant, c'est difficile à dire parce que les profils sont quand même relativement variés. Ils viennent de milieux différents, ils ont eu des parcours différents, et c'est vrai à la fois pour les enfants et pour les parents. Vous disiez au début de l'émission que 5, c'est peu. Effectivement, le but, c'était plutôt de voilà, comprendre comment eux, ces 5 parents, vivaient la chose. Représentatif ou pas, c'est difficile à dire, mais on trouve quand même des points de similitude entre leurs histoires. Mmh.
David Thompson, dans votre enquête sur ces Français revenus, hein, partis faire le djihad et revenus sur le territoire français, vous enquêtez sur ces djihadistes depuis des années. Aujourd'hui, vous dites clairement que on sait à peu près de quel type de milieu, de quel parcours ils viennent.
Bah, de façon majoritaire, c'est vrai qu'on a des gens qui sont issus de quartiers populaires, voire de quartiers sensibles. C'est, on dirait, une large majorité. C'est une tendance très majoritaire pour les Français, en tout cas. Et je pense que pour les Belges, on a un peu une situation assez similaire. On a quand même en majorité des gens qui sont issus de cultures, d'éducation musulmane, pour à peu près 70% des personnes que j'ai interrogées.
Donc issus de l'immigration.
Issus de l'immigration maghrébine ou subsaharienne. Et je dirais qu'il y a à peu près 30% pour la France de convertis. Même au sein des convertis, on a une surreprésentation des minorités, notamment antillaises, ou également issues de l'immigration asiatique, de confession chrétienne. Et souvent, les blancs au sein des convertis sont eux-mêmes issus parfois d'autres vagues d'immigration européenne, notamment il y a une forte représentation des Portugais, par exemple. Donc ça, c'est des éléments sociologiques qui sont assez signifiants à prendre en compte.
Du point de vue numérique, en tout cas. Ouais. Élodie, vous ne vous reconnaissez pas dans... tellement dans ce portrait robot, non. Mais on est bien d'accord, hein, c'est une affaire de nombre, en fait. Hein,
oui, donc, tout à fait. C'est dire à quel point ça peut être très... Voilà, ça me brasse l'art, on va dire.
Ouais. Et vous, Véronique Loot, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette majorité numérique énoncée par David Thompson ?
Non, excusez-moi, mais je n'ai pas bien entendu ce que M. Thompson a dit, mais...
À savoir une surreprésentation des enfants grandis dans des quartiers populaires, issus de l'immigration, de culture musulmane ?
Ça, c'est vrai pour la Belgique, c'est quand même une population bien déterminée qui y est partie, et que mon fils était quand même un cas à part, du moins dans les jeunes partis de Belgique, il n'y en a pas beaucoup issus de classe aisée ou de classe... C'est quand même une majorité de jeunes issus de l'immigration.
Ouais. Mais justement, ces parents-là, issus de l'immigration, qui ont grandi d'ailleurs sans que la religion tienne une place extrêmement importante à la maison, on les a peu entendus dans leur douleur. Hein. Ce sont plutôt justement des parents minoritaires qui témoignent, Céline Schön. Alors bien sûr, il y a une Samira dans votre livre.
J'allais parler d'elle et elle, c'est un exemple représentatif quand même. Et elle n'a pas hésité une seule seconde avant d'accepter de se livrer. Et elle, effectivement, vient d'un quartier relativement pauvre à Bruxelles qui s'appelle Schaerbeek. Elle est musulmane, elle a eu beaucoup de questions avec sa fille, savoir est-ce qu'il fallait porter le voile ou pas. Elles ont parlé de religion, c'était pas du tout un tabou au sein de leur famille. Et pourtant, comme les 4 autres parents dans le livre, elle a absolument rien vu venir. C'est certainement ça le point
commun
entre ces 5 parents, oui.
Pour ces parents-là, justement, qui sont largement montrés du doigt, est-ce que c'est encore plus compliqué, David Thompson ? Est-ce que c'est pour cela aussi que peut-être chez eux, les perquisitions ont été encore plus plus violente, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas de Samira. Est-ce que c'est encore plus compliqué de s'exprimer, de se regrouper ?
En tout cas, ce qu'on a tendance à constater, notamment dans les associations de parents en France, c'est que ceux qui sont issus de culture et de religion musulmane ont moins facilement tendance à s'exprimer publiquement dans les médias et même à se tourner vers les associations. Ça, c'est, on constate ça dans plusieurs villes. Expliquer pourquoi, peut-être que la peur, effectivement, d'une judiciarisation de leur dossier est plus grande que chez des populations qui sont entre guillemets blanches, non musulmanes, qui aura des accusations qui seront pas les mêmes pour dans les deux cas de figure. Je pense que les réticences sont essentiellement dues à ça, mais c'est vrai qu'en plus il y a des parents qui très tôt ont été assez maltraités par les autorités, notamment par la police. Moi, je me souviens de parents qui avaient alerté très tôt, dès 2013, des commissariats, et qui n'avaient pas été pris au sérieux, et qui un an après le départ de leur enfant se sont retrouvés avec des perquisitions un lundi matin à 6h de leur domicile. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont connues des parents et qui ne sont pas de nature à faciliter la prise de parole, je pense.
Céline Schön, tous les parents disent « j'aurais peut-être dû voir, mais en réalité c'était indétectable ».
Disons que après coup, maintenant...
Cette ambiguïté, ce sentiment de culpabilité parfois aussi.
Culpabilité probablement, parce qu'ils se rendent compte vraiment maintenant, aujourd'hui, qu'il y a des tas de signes qu'en fait ils auraient dû voir, mais que sur le moment ils se sont pas du tout rendu compte que c'était des signes de radicalisation violente. Si on reprend l'exemple de Samira, avant le départ de sa fille, Nora venait dans la cuisine, lui faisait des tas de câlins, elle lui disait « je t'aime maman », des choses comme ça qu'elle faisait pas habituellement. Et elle comprend maintenant pourquoi soudain ces effusions d'affection, et c'est vrai pour vous aussi Élodie, je crois.
Mon parcours, c'est un petit peu différent, mais effectivement, avec le recul, je me rends compte qu'il me cherchait le midi au boulot, il voulait qu'on mange plus souvent ensemble.
Vous aviez de très bonnes relations avec votre fils. En tout cas, de bonnes relations.
C'était très passionnel, en fait.
Oui.
Voilà, c'était très, très passionnel, mais oui, on avait énormément de moments de complicité, de gros moments de colère aussi. Mais oui, on était proches.
Et pour vous, Véronique Loot, votre fils est parti très tôt, rejoindre les rangs de l'EI en 2012.
Oui, à la différence que mon fils habitait seul, puisqu'il avait demandé un an ou deux auparavant de vivre seul en appartement. Donc la question relationnelle était un peu différente entre lui et moi, dans ce sens que moi, je n'ai rien vu venir, tout à fait, mais je ne voyais rien venir. Quoi. Mais c'est vrai que tous les signes étaient les mêmes que pour les autres mamans. Quoi. C'est que bon, cette radicalisation, elle était présente.
De là, imaginer un départ, une conversion à la religion musulmane,
jamais
ne laissez pas présager qu'il dirait, bien sûr. Céline Schön, tous les parents, alors bien sûr, il y a cette torture de l'inaction, du que faire une fois que les enfants sont partis. Tous les parents ont envisagé un temps d'aller chercher eux-mêmes leurs enfants en Syrie. C'est quelque chose dont vous parlez, qui est envisagé dans les histoires différentes.
C'est envisagé à chaque fois. Samira, encore, elle est allée jusqu'en Turquie, mais s'est retrouvée bloquée à la frontière turco-syrienne. Donc l'aventure s'est arrêtée là pour elle. Après, tous les parents y ont pensé, mais se sont la plupart du temps dit que ça allait être trop dangereux et qu'ils n'arriveraient à rien là-bas, tout simplement. C'est très différent du témoignage, par exemple, dans le livre de David Thompson, où là, on a des parents qui vraiment sont partis jusqu'en Syrie et ont intégré l'État islamique.
Justement, j'allais vous poser la question, David Thompson, dans votre enquête qui est surtout consacrée aux motivations du départ, à la vie sous Daesh et au retour de ces Français, mais vous avez rencontré longuement un couple de parents, médecins, qui ont entraîné toute la famille dans un périple fou pour aller chercher leur fils. Alors, c'était des parents arabophones.
La maman était arabophone, le papa ne l'était pas. C'était des parents qui étaient en tout cas musulmans pratiquants. Et effectivement, leur fils est parti là-bas. Eux étaient médecins et il a été blessé très rapidement. Ils l'ont vu dépérir sur Skype et ils se sont dit, on ne peut pas le laisser dans cette situation-là, on va le chercher. Donc ils ont pris leurs deux adolescentes, leurs deux filles. Ils sont partis avec du matériel médical pour crédibiliser le départ et pour faire croire à l'État islamique, en tout cas c'est leur version, qu'ils émigraient sincèrement pour vivre au sein de l'État islamique. Donc ils sont arrivés au sein de l'État islamique, ils ont travaillé en tant que médecins, ils ont donné des cours à l'université de médecine de Raqqa pour l'État islamique, ils ont requinqué leur fils qui était vraiment blessé, il avait pris une balle dans le ventre qui avait arraché une partie des intestins, et au bout de 3 mois ils ont réussi à l'extirper de l'œil et à revenir en France. Donc le fils va être jugé quand même, là il risque 10 ans de prison dans les prochains mois, mais c'est un cas qui est quand même quasi unique. Il y a un autre papa français qui est allé, alors lui il a eu beaucoup moins de chance parce qu'il est allé jusqu'à Raqqa pour aller chercher son fils, il s'est rendu sur place, c'est un papa français, sauf qu'une fois arrivé sur place, le fils n'a pas voulu rentrer avec son père et il est mort pendant la bataille de Kobané début 2015.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans vos échanges avec votre enfant, par exemple, vous, Élodie, ce sont, même si les échanges sont rares, ce sont des discussions que vous avez ou que vous avez eues, en tout cas, sur ces 2 années qui se sont écoulées, où vous êtes éloigné, où votre fils est en Syrie, où vous lui demandez de rentrer.
Alors, je l'ai fait. Je pense qu'on l'a toutes fait. Et jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que généralement, la sanction tombait. En règle générale, quand on insistait trop, c'est-à-dire que c'était 15 jours, 3 semaines, 1 mois sans nouvelles.
Si vous abordiez ce sujet-là.
Si on abordait le sujet. Tout doucement, on apprend à ne plus insister. Effectivement, j'ai fait comme beaucoup de mamans, j'ai fait des choses pas jolies, j'ai menacé de me foutre en l'air, ouvertement.
Oui, mais le chantage au suicide, le chantage affectif, bien sûr. De cette façon-là, mais ça, tous les parents l'ont tenté. Hein,
je pense.
Céline Schoen.
Au moins les mamans. Il y a un papa aussi dans le livre qui témoigne. Lui, il est peut-être allé un peu moins loin dans ce genre de chantage affectif, mais c'est pas pour autant qu'il avait moins envie de rentrer, de voir son fils rentrer que les autres.
C'est le plus dur, c'est de se sentir totalement démuni, d'accepter d'être démuni.
Non, on n'accepte pas. Enfin, c'est l'impuissance. C'est l'impuissance, quelque chose de...
Comment vous vivez aujourd'hui ?
Je vis pas. Je survis. Mais ça fait longtemps que j'ai cessé de vivre, je pense. Ça tient plus d'un...
Vous parvenez à travailler ?
Difficilement. C'est-à-dire que c'est... Bon, j'ai encore la chance d'être, on va dire, dans l'administration. Donc, ce qui me permet de... Mais non, c'est très, très compliqué. C'est douloureux. Je connais des mamans qui ne peuvent plus travailler. C'est compliqué de rester dans la vraie vie quand on vit quelque chose de... Ça tient de la quatrième dimension. C'est une espèce de vie parallèle, quoi.
Et pour vous, Véronique Loot, est-ce que vous vous sentez dans une situation finalement différente parce que votre fils est décédé sur place à Raqqa?
Ouais, c'est-à-dire que tout ce que Élodie a vécu, sauf le chantage au suicide, ça, je n'y ai pas eu accès. Mais tous ces moments de douleur, de crainte, de terreur, tout ça, j'ai vécu pendant 4 ans. Et jusqu'au moment où il m'a dit « je ne te parlerai plus parce que... » j'ai des drones au-dessus de la tête et que j'ai peur de mourir avec un drone. Je ne peux plus te parler, il m'a dit. Donc, à partir de ce moment-là, je vous avoue que ça a été quand même assez dur. Mais c'est vrai que c'est pas... On ne vit plus la même vie qu'on vivait avant.
Alors, vous restez avec nous, Élodie, Véronique Loot, également Céline Schoen et David Thompson. On a besoin de savoir aussi pourquoi et comment les parents partis, dont les enfants sont partis pour la Syrie, se regroupent. Que demandent-ils aussi aujourd'hui à leur pays? Comment envisagent-ils l'avenir, y compris pour leurs petits-enfants, pour certains qui sont nés sur le territoire contrôlé par Daesh? Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. 7 milliards de voisins, retour dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant sur RFI.
Présidentielle. 7 milliards de voisins.
on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Céline Chen, vous êtes avec nous dans le studio, vous publiez Parents de djihadistes, je crois que le titre est explicite. Vous avez enquêté auprès de 5 parents en Belgique et en France, 2 mamans en France, qui ont dépassé leur colère, leur honte, leur découragement, voire leur épuisement aussi, pour faire entendre leur voix sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur leur détresse, mais aussi sur ce qu'ils aimeraient voir reconnu par les institutions, par l'État, leur démêler avec l'administration. David Thompson, vous êtes également avec nous, journaliste à RFI, vous avez publié une enquête très remarquée qui s'appelle Les Revenants sur ces Français partis faire le djihad et revenus en France. Une bonne partie d'entre eux sont incarcérés. Élodie, vous avez accepté de témoigner sous pseudonyme. Vous figurez dans l'enquête de Céline Chen, parent de djihadiste. Votre fils est parti à 22 ans pour la Syrie. Il est là-bas depuis 2 ans. Il est aujourd'hui papa avec sa femme depuis de 2 petites filles hein, que vous n'avez donc jamais vues. Vous avez vu des photos ?
Oui.
Oui. Véronique Loot, vous êtes en liaison avec nous à Bruxelles. Merci. Oui. Votre fils Samy est parti en 2012 et il est décédé en 2016 hein, dans la région de...
Oui.
Véronique, Raqqa, je vous en prie. À Raqqa.
Et il a laissé deux garçons là-bas, deux petits garçons avec leur maman. Et moi, je souhaiterais vraiment en faire mon objectif, mon combat futur. C'est de retrouver mes petits-enfants.
Que vous connaissez, que vous avez connu
non,
ou pas ?
Jamais.
Non. Ils sont nés là-bas, donc.
Ils sont nés là-bas, mais je ne sais pas comment ils sont, parce que quand le deuxième est né, mon fils a coupé les ponts. Donc, je n'ai jamais eu de contact avec ces enfants.
Et vous n'avez plus de contact avec la maman de vos petits-enfants ?
Non, je n'ai jamais eu de contact. Depuis un an ou deux, je n'ai pas de contact.
Parce qu'elle-même n'est pas belge ?
Non, elle est syrienne et elle est de langue arabe. Enfin, elle parle syrien. Donc, il n'y a aucun contact possible entre elle et moi. Donc, c'est là la difficulté pour retrouver ses enfants. Mais je vais essayer de m'adjoindre des personnes qui seraient d'accord de m'aider. Quoi.
Céline Chen, c'est vraiment devenu un combat très partagé par les parents, que leur enfant soit décédé ou soit toujours en vie, avec évidemment un espoir mince de le revoir, de renouer un contact, de retrouver la trace de ces petits-enfants qui, eux, seraient susceptibles d'être, de rentrer, plutôt d'arriver sur le territoire sur lequel ils ne sont pas nés.
Oui, naturellement, tous les parents qui sont devenus grands-parents se posent des tas de questions sur la vie de leurs enfants et leurs petits-enfants là-bas, et évidemment aimeraient les retrouver et les faire rentrer en France ou en Belgique. Après, ça pose des tas de questions dans le sens où quel statut pour ces enfants qui ont été éduqués sur le territoire de l'État islamique. On imagine difficilement comment les réintégrer dans une société comme la nôtre.
David Thompson, sont des enfants sans identité aujourd'hui ?
Alors, c'est pas tant le problème de l'identité, parce que le cas de figure s'est déjà plusieurs fois produit en France, d'enfants qui sont soit nés sous l'État islamique, enfin oui, qui sont nés sous l'administration de l'État islamique, qui sont rentrés en France. Alors, très concrètement, ça se passe, ils arrivent avec des papiers de l'État islamique qui sont donnés à l'administration française au consulat et qui ensuite remet à jour et leur donne une existence administrative. Effectivement, la difficulté, là, on n'a pas encore été confronté vraiment à ce cas-là en France. C'est pour des jeunes garçons qui ont entre 6 et 10 ans. C'est l'âge à partir duquel ils sont envoyés au camp d'entraînement militaire. Ce sont des enfants qui, pour certains d'entre eux, ont déjà tué. Dans quel état vont revenir ces enfants ? C'est ça la difficulté. Mais en tout cas, en France, lorsque les parents sont mis en prison, leurs enfants, certains d'entre eux, ont été confiés aux grands-parents. Donc c'est déjà ce qui se passe en France actuellement.
C'est vrai aussi en Belgique. Laura Passoni, qui est une jeune Belge revenue de Syrie, de la même façon, a vu son bébé confié à ses parents, à elle.
Élodie, c'est à ça que vous pensez ? C'est à ça que vous rêvez ?
Oui. Ben, c'est même... récupérer mes petites filles, c'est vraiment le...
Alors, il y a une question d'Abdelaziz qui nous écrit de Cotonou, au Bénin, et qui dit, mais une fois en Syrie, les parents ont-ils des nouvelles de leurs enfants, par voie directe, par voie indirecte? C'est une question évidemment que se posent beaucoup d'auditeurs, on a eu pas mal de messages là-dessus. Vous, par exemple, à quelle fréquence vous avez la possibilité de dialoguer avec votre fils qui est parti depuis un tout petit peu plus de 2 ans maintenant?
C'est très fluctuant. En fait, il n'y a pas de régularité. J'ai pu avoir des nouvelles tous les jours pendant une semaine, plus rien pendant 2 mois. C'est très, très variable, en fait.
Comment vous l'expliquez?
J'essaie de pas trop y penser. Je suppose que c'est lié, peut-être aux connexions Internet. Je ne sais pas. Mais effectivement, il n'y a pas de régularité. Donc c'est très angoissant, parce qu'à chaque fois que j'ai des contacts, je ne sais jamais si...
Comment vous vivez
jusqu'à quand?
Ces échanges, ces contacts, forcément toujours trop brefs, quand vous entendez sa voix, quand vous parlez ensemble?
Je ne l'ai pas forcément, à titre personnel, je l'ai assez rarement eu en ligne. J'ai rarement entendu sa voix au téléphone. Donc c'est relativement rare. Après, comment est-ce qu'on vit? Sur l'instant, c'est un petit peu... je sais pas comment dire, c'est hors norme, quoi. C'est une conversation très banale dans un contexte qu'il est absolument pas. Donc c'est...
Quand vous dites très banal, c'est-à-dire?
Dans la mesure où, à partir du moment où les échanges, il y a des sujets qui sont devenus tabous, comme là, reviens, maintenant, des choses qu'on évite. Donc, quelquefois, c'est donner des nouvelles de la maison, du quotidien, lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment je vais, machin,
oui.
Est-ce que tu as passé tes examens, c'est des choses vraiment banales.
Comme s'il lui-même vivait une vie normale.
Oui, oui.
Est-ce que vous savez, géographiquement, est-ce que vous avez une idée d'où il peut se trouver?
Absolument pas. Il n'a jamais, d'ailleurs, si un...
Vous avez cherché à le savoir?
Bien sûr. Ça m'avait dû 3 semaines de silence absolu, donc... Donc j'ai cessé de trop poser de questions là-dessus, mais non.
Est-ce que ça, David Thompson, c'est une question que les parents cherchent à élucider, par exemple en contactant des gens comme vous qui sont en contact régulier avec des djihadistes sur place? Vous êtes contacté par des parents, vous?
Oui, ça arrive assez souvent, mais c'est des parents qui appellent pour discuter, pour avoir une oreille, je crois, pour avoir des informations aussi. Mais c'est vrai que les informations sur la localisation de leur enfant, aujourd'hui, les djihadistes ont interdiction de donner leur position, même à leur famille. Effectivement, surtout à cause des problèmes des attaques de drones. Donc, on est dans une situation de guerre. Donc, ils ont interdiction absolue. Leurs émirs leur ont donné interdiction de tout élément d'information qui peut être de nature stratégique. Ils n'ont pas le droit de le donner.
Vous avez le sentiment que votre fils, quand vous l'avez au téléphone ou quand vous dialoguez avec lui via Internet, qu'il n'est que non seulement il y a des sujets qu'il n'a pas envie d'aborder, mais qu'il ne peut pas aborder, qu'il n'est pas libre de s'exprimer?
J'en suis persuadée. Je l'ai vécu. D'ailleurs, j'ai fait une anecdote. Il y a une anecdote qui est mentionnée dans le livre. Moi, je suis persuadée que ils ont des changements des fois de comportement vraiment limite brusques. C'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment de parler à mon enfant. Et d'un coup, c'est changement de ton total. Et changement de teneur de propos total. Et, moi, j'en suis intimement convaincue.
Je pense que de leur part, il y a une autocensure aussi, puisque leurs téléphones sont contrôlés par les services de renseignement de l'État islamique. Régulièrement, ce qu'ils appellent les EMNI, les services de renseignement, confisquent les téléphones, vérifient les conversations. S'il y a une conversation qui est suspecte à leurs yeux, ça peut être une accusation d'espionnage. Et s'ils sont reconnus coupables d'espionnage, la peine encourue, c'est la peine capitale.
Sur l'hypothèse retour, évidemment tous les parents rêvent que leur enfant rentre. Alors certains enfants disent mais je ne vais pas rentrer, je risque 30 ans de prison. On retrouve ça dans un des échanges. C'est vous, Élodie, c'est votre fils qui vous a dit ça au début en tout cas, puisqu'après donc, le sujet est devenu complètement verrouillé, tabou, plus question de l'aborder. Céline Chen, tous les parents abordent ce sujet-là. Est-ce que le retour est impossible par définition parce qu'il se soldera par des poursuites judiciaires?
Dans le cas d'Élodie, c'est typique dans le sens où son fils lui a demandé de se renseigner sur combien de temps il passerait en prison s'il rentrait. Donc j'imagine que ça décourage certains enfants. Après, il y en a qui quand même accepteront de passer par la case prison. c'est, voilà, c'est une sorte d'équilibre qu'ils doivent trouver.
Justement, comment se passe le retour d'un point de vue judiciaire pour les revenants que vous avez rencontrés, David Thompson ?
Mais effectivement, aujourd'hui...
Les situations sont très contrastées.
Oui, aujourd'hui, pour les hommes, en tout cas, l'incarcération est systématique. Mais ce n'est pas une incarcération de 30 ans pour l'instant. Il n'y en a aucun djihadiste qui a eu une peine de cet ordre-là. Même si la tendance, elle est plutôt à la sévérité. Mais je connais un Français qui a passé un an là-bas et qui revient avec un discours qui est un discours de repenti. Et la justice le prend en compte et il a eu 3 ans de prison, dont un ferme et 2 aménagés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en liberté. À l'inverse, il y a 4 figures de certains Français qui ont passé qui n'ont passé que 4 mois en Syrie, qui ont pris 10 ans parce qu'eux ne sont pas du tout repentis. Donc il y a une individualisation des peines et tout le monde ne prend pas 30 ans de prison au retour.
Quelle est la possibilité des enquêtes sur ce qu'ont fait ces jeunes sur place pour les autorités judiciaires ?
C'est toute la difficulté. Parce que,
donc pour l'évaluation de la peine ?
Aujourd'hui, les éléments matériels dont la justice dispose contre les djihadistes qui reviennent de Syrie, ce sont des photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, ce sont les éléments qui ont été récupérés sur Internet en source publique, et puis c'est évidemment du renseignement technique, c'est-à-dire des écoutes téléphoniques qui ont été judiciarisées et qui viennent des services de renseignement. Mais de toute façon, aujourd'hui, le simple fait d'être allé en Syrie, ça n'a pas toujours été le cas, est un délit en soi, passible de 10 ans de prison correctionnelle, puisqu'il n'y a aucun Français qui n'a pas rejoint un groupe djihadiste en Syrie, un groupe terroriste, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique.
Il y a une question d'un auditeur intéressante, Sialou Sira, qui est en Guinée, hein, et qui nous pose la question suivante. Alors c'est pour vous, Elodie, et puis pour vous aussi, Véronique Lout. Avoir un fils dans les rangs des terroristes a-t-il changé votre regard sur le terrorisme et sur la lutte antiterroriste ? C'est une question trop difficile, dans le fond, Elodie.
C'est complexe, parce qu'effectivement, changer le regard, oui et non. Enfin... aucun des parents, je connais, personne ne cautionne ça. Enfin, on est exactement dans le même cas de figure que n'importe qui. Simplement, à côté de ça, il y a nos enfants. Et l'amour d'une maman pour son enfant, il est inconditionnel. Et donc, c'est très, très violent. J'ai souvenir, après les attentats de novembre, de cette espèce de double, triple peine qu'on prend dans la tête, parce que d'une part, on est des citoyens comme les autres, et avec le choc, la violence qu'on a ressentie, et en même temps, même si c'est complètement un peu fou et dément, on a une espèce de culpabilité et d'instinct de protection. Ce qui ne veut pas dire qu'on amoindrit ce qui se passe,
bien sûr.
Mais je veux dire, c'est indissociable, l'amour de son enfant... Il est inconditionnel. Et moi, ce qui m'a choquée, c'est que je l'ai entendu quand je parlais de... Quelquefois, les gens nous regardent de manière assez particulière. C'est qu'on m'a regardé avec des grands yeux parce que je maintiens que j'aime mon fils. Et que les gens partent du principe qu'à partir du moment où mon fils a rejoint l'État islamique, je suis supposée avoir coupé tout sentiment pour cet enfant. Ce qui est complètement dément. Et je pense que chaque parent... un enfant, c'est ses tripes, quoi. C'est très, très...
J'ai l'impression qu'aucun parent n'accepterait jamais d'imaginer que son fils pourrait être un terroriste et revenir sous la forme d'un terroriste en Europe.
Même si tous les parents qui ont des fils partis, c'est pas le cas pour les filles, mais admettent qu'il est plus que probable que leur fils combat.
Oui, tout à fait.
Vous acceptez cette réalité-là ?
Je vais pas dire que je l'accepte, je suis obligée de faire avec, on va dire. Mais je suis lucide sur l'éventualité.
Et qu'est-ce que vous pensez, alors là je m'adresse aussi à vous, Véronique Lout, des associations, des experts qui testent des méthodes de déradicalisation, on en a énormément parlé, parce que vous, en tout cas, vous êtes quand même, vous acceptez d'entrer dans des circuits de prévention, vous exprimez auprès de jeunes, dans des établissements scolaires, ça vous arrive, non, me semble-t-il ?
Sur les...
Véronique Lout, c'est votre cas, en tout cas.
Oui, depuis 2013, lors du décès du premier Belge en Syrie, on a décidé, le papa et moi, de créer l'association Les Parents Concernés. Et c'est vrai, on a fait beaucoup d'écoles et d'associations diverses. Mais je voulais revenir sur deux choses. La première, c'est des enfants qu'on veut retrouver là-bas. Moi, je ne veux pas aller les chercher là-bas. Je ne veux pas qu'ils viennent vivre ici, je veux les laisser là-bas. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on me donne l'occasion d'aller les voir. Ce qui sera peut-être pas évident, mais c'est ça que je cherche surtout. Ça, c'est d'une chose. D'autre, par rapport à l'image qu'on a, nous, parents de jeunes partis là-bas, je dois dire que j'ai beaucoup de chance que je n'ai pas trop souffert d'une mauvaise image. Et jusqu'à présent, c'est seulement maintenant, comme on lui a collé sur la peau qu'il était il avait fomenté les attentats de Bruxelles et de Paris. Là, ça devient plus compliqué par rapport aux autorités. Quand je demande une autorisation officielle, là, on me la donne pas. Donc,
qu'est-ce que vous voulez dire par autorisation officielle ?
Ben, j'avais demandé dans le cadre du. Enfin, comme on a encore, j'ai encore rien fait par rapport au décès de mon fils, je m'étais dit pour faire un peu une prévention aux jeunes et leur montrer où ils peuvent en arriver à partir là-bas et tout ce qu'on leur demande sur place et jusqu'à la mort. Je m'étais dit, ça c'est vraiment un cas où on peut montrer aux jeunes qu'il ne faut pas.
Vous voulez dire que vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer dans des établissements scolaires, par exemple ?
Scolaires, oui, mais pas publics.
Ah.
Tant que c'est privé, ça ne...
Parce que votre fils est apparu, notamment en décembre 2012, dans une vidéo de propagande,
Non, ça, ça n'a pas été un problème. C'est maintenant qu'il y a des rumeurs comme quoi il a fomenté les attentats de Paris et de Bruxelles. Du coup... Je pensais faire une petite réunion, mais on me donne pas l'autorisation, du moins dans les locaux de la ville. Maintenant, je peux toujours le faire en privé, il n'y a pas de souci.
David Thompson, on voit bien que les parents sont dans une situation tout de même compliquée aujourd'hui. Leur statut de victime est très difficile à reconnaître pour les institutions, voire ils sont parfois presque reconnus comme également plus ou moins coupables ou pas. C'est difficile à évaluer, ça.
Y a déjà, là, avec le témoignage qu'on vient d'entendre, on voit qu'il n'y a pas le même... traitement en fonction de ce qu'a fait l'enfant et ce que représente l'enfant. C'est sûr qu'un enfant qui a été droné par les États-Unis, c'est un djihadiste important. C'est pas n'importe qui est droné par les États-Unis. Quelqu'un, l'enfant qui a participé à des attentats, et évidemment, du coup, ça aura des conséquences sur la famille, puisque la famille n'aura pas la même relation de fait avec les autorités. Il y a tout un tas de difficultés aujourd'hui qui se posent avec des parents. Hier, il y a une maman qui m'appelait pour avoir son fils a été... est mort dans une opération suicide en Irak pour l'État islamique et elle a besoin d'authentifier, de certifier aux yeux de l'administration la mort de son fils qui est encore en vie administrativement. Et ça c'est un grand problème pour les familles de faire reconnaître la mort administrative de leur fils, ne serait-ce que pour des questions d'héritage, pour fermer les comptes en banque, pour pouvoir faire un deuil. Donc ça c'est un des combats, je crois, des familles.
Oui, psychologiquement c'est dramatique et ça pose vraiment problème dans le sens où le seul fait de devoir déclarer l'enfant mort et que ce soit tellement difficilement accepté par les autorités, c'est dur pour certains parents.
Oui, Véronique Loutre.
Non, simplement je voulais dire que dans mon cas, j'ai dû prendre un avocat parce que je vais devoir faire des démarches pour avoir ce fameux papier comme quoi il est décédé, mais je serai obligée de passer par un juge d'instruction qui devra lui passer par un juge d'instruction aux États-Unis et voir avec les autorités militaires américaines s'ils daignent me donner un papier suite à la mort de mon fils. Quoi.
Parce que pour l'administration, la difficulté, c'est que les djihadistes ne sont que présumés morts. La crainte, évidemment, c'est que, et c'est déjà arrivé, certains se fassent passer pour morts pour revenir et faire un attentat. Donc c'est toute la difficulté.
Mais ici,
c'est
pas dans ce cas-ci.
Pas dans ce cas-ci, parce que vous avez été prévenu d'ailleurs par les forces armées américaines du décès de votre fils, me semble-t-il.
Tout à fait. Oui, il y a eu une conférence de presse au Pentagone, comme quoi ils avaient... et vous imaginez que ce que je vis, c'est que j'ai jamais dans ma tête imaginé que j'allais en arriver là. Et c'est horrible.
Alors, qu'est-ce que aujourd'hui, vous, les parents, vous êtes dans des situations très différentes, hein, on l'a bien compris, mais qu'est-ce que vous demandez, en fait? Déjà, sur la déradicalisation, vous n'avez pas répondu, Élodie, sur tout ce qui a été tenté, et surtout sur la reconnaissance de votre souffrance. Déjà, sur la déradicalisation.
Alors, la déradicalisation, le terme... ça n'engage que moi, mais c'est quelque chose auquel, entre guillemets, je crois très modérément. Voire pas du tout.
Vous dites carrément il y a un vrai business autour de la déradicalisation aujourd'hui. Vous le maintenez, ça,
bien
à l'antenne
sûr, et je l'affirme haut et fort, et je me battrai toujours contre
c'est
ça.
C'est pas seulement un échec pour vous, c'est une utilisation.
Alors non seulement c'est une utilisation à des fins souvent personnelles, et alors je pense à certaines associations qui nous ont volé la parole, c'est-à-dire qui sont des associations de gens qui ne sont pas concernés directement, qui nous ont volé la parole parce que c'est dans l'air du temps, puis c'est un business bien juteux.
Donc, vous parlez de subventions publiques, par exemple, pour des associations de déradicalisation?
Entre autres, et puis des gens qui, pour des raisons plus personnelles, pour des fins politiques, à des fins mercantiles, ont décidé de parler en notre nom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument pas représentatif des parents, avec les trois quarts conteste ces gens-là.
À quoi vous pensez?
Je ne citerai pas, mais je pense à... il y a quelques qui sont...
Mais alors,
qui
vous dites, on nous a volé la parole. Vous, aujourd'hui, en tant que parent, dans une souffrance incommensurable, qu'est-ce que vous demandez, finalement, à l'opinion publique, à l'État?
Eh bien, justement, on est en train de... Enfin, nous sommes en train de reconstruire un collectif de parents, et non pas association, un collectif, sur lesquels les associations... Deux parents concernés nous rejoignent doucement et nous désirons effectivement, on a pour optique de pallier à certains problèmes dont ceux dont on parlait tout à l'heure, à savoir les problèmes administratifs, toutes ces choses, tous ces dommages collatéraux auxquels on est confronté.
Vous demandez quel type de reconnaissance, finalement?
Un statut de victime, puisque finalement je crois que c'est ce que nous sommes, des victimes. Nous sommes des victimes également. Ce statut nous est refusé à ce jour. Et voilà, et ce qu'on aimerait, c'est être reconnu comme tel et pouvoir justement pallier à tous ces problèmes annexes qui peuvent être d'ordre professionnel, par exemple. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est compliqué de travailler. Qu'est-ce qui se passera effectivement pour nos enfants? Comment récupérer nos petits? Je parle des petits-enfants, là, en l'occurrence.
Pas d'un retour hypothétique de votre fils.
Si, mais bon, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'hypothétique, mais effectivement, en ce qui concerne les djihadistes eux-mêmes, je pense que c'est acté. C'est la prison, c'est...
Alors, mais les petits... Il y a une question d'un auditeur, Céleste, sur Twitter, qui pose cette question. C'est une question douloureuse. Les parents préfèrent-ils savoir leur enfant en prison en France ou djihadiste libre en Syrie? Forcément, vous l'êtes posé, cette question-là.
Oui, enfin, c'est choisir entre la peste et le choléra, je veux dire. C'est... En ce qui me concerne, effectivement, je dirais égoïstement, je préférerais le savoir en prison ici.
David Thompson, cette question de la voix des parents aujourd'hui qui souhaitent être entendus, est-ce que c'est une question qui peut faire surface, c'est un débat qui peut faire surface aujourd'hui, avec les institutions françaises notamment? Quelle est la position des institutions françaises?
Je crois que la voix des parents, elle a été déjà en France assez entendue. Elle a été même utilisée par l'institution, par le gouvernement. Il y a eu notamment un clip qui a été diffusé par le gouvernement français, un clip de sensibilisation. Et c'était très important. On a présenté ça comme un programme de déradicalisation, mais c'était pas le cas. L'idée, c'était surtout de sensibiliser la population.
Programme de prévention, plutôt.
Voilà.
Pour laquelle vous n'êtes pas contre, d'ailleurs, sur la prévention. Il faut bien distinguer prévention et déradicalisation.
Pourquoi pourquoi c'est important? Parce que ce qui s'est passé en 2012, 2013, 2014, avec des parents qui étaient les derniers à découvrir la radicalisation de leur enfant, quand ils recevaient un coup de téléphone de Syrie en disant « Papa, maman, je suis en Syrie, je rentrerai pas », ça aujourd'hui, je pense que ça peut plus arriver parce qu'il y a justement eu cette sensibilisation et que y a tout un tas de signes auxquels les gens vont penser qu'ils sont les signes d'alerte.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui partent aujourd'hui en Syrie, voire très peu, voire plus.
Oui, aussi. Alors, effectivement,
qu'est-ce qu'on a comme information?
Alors, il y a un tassement très net des départs depuis cet été, pour une raison très simple, c'est que l'État islamique a perdu le contrôle de la frontière turque, le dernier poste frontière est tombé, la ville de Jarablus est tombée cet été, et donc ça complique évidemment toutes les entrées, mais aussi les retours, de fait. Donc ce sont des retours qui sont toujours clandestins, et il faut traverser les lignes ennemies maintenant pour quitter l'État islamique, c'est difficile.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette tentation, ce mal-être, ce désir de la part des jeunes?
Absolument, oui, non, les raisons sont toujours là.
Véronique Lout, qu'est-ce qui vous permet de rester debout aujourd'hui, quelques mois après le décès de votre fils?
C'est le fait de penser aux autres parents et de continuer à les aider ou à sensibiliser les jeunes. Moi, je crois qu'on ne peut pas arrêter tant que le conflit existera. On ne peut pas s'arrêter de faire de la sensibilisation et de l'information parce que ça peut toujours arriver dans un autre pays, un autre continent. On n'en sait rien de ce qui sera... Vous savez, on n'a jamais imaginé ce qui allait se passer en Syrie.
Céline Chen, un mot de conclusion. Je vous laisse la conclusion puisque vous publiez Parents de djihadistes et vous avez rencontré ces différents parents.
La conclusion, ce sera vraiment que tout le monde doit retenir que ses parents, ce sont des parents de djihadistes et non de terroristes. C'est un amalgame qu'il ne faut pas faire et penser que ça peut arriver à tout le monde.
Merci à vous tous. Céline Chen, vous publiez Parents de djihadistes. David Thompson, vous avez publié cette enquête, Les Revenants, aux éditions Seuil Les Jours. Merci à toute l'équipe également et merci à vous, Élodie et Véronique Lout. À demain, les voisins.